France Inter, le 18-20.
Au téléphone sonne ce soir, folie des vide-greniers, succès des sites de revente en ligne, boom des achats d'occasion, engouement pour la location, floraison des sites de partage. Les Français seraient-ils en train de changer leur façon de consommer? On peut se poser la question. Le succès de la seconde main ne se dément pas. Quelles en sont les raisons? Volonté de faire des économies, besoin de consommer moins, de consommer mieux, de manière plus éthique et plus responsable. Besoin de préserver l'environnement, peut-être aussi en recyclant ce qui peut l'être. Besoin de se détacher de la propriété en refusant d'accumuler des objets. Peut-on parler pour autant d'une baisse de la consommation ou même de décroissance? S'agit-il d'une nouvelle forme d'économie? Est-elle forcément liée au numérique et quid des sites qui permettent toutes ces transactions? On le voit, les questions sont multiples. Avec nous pour en parler ce soir, deux spécialistes dont le métier est précisément d'observer et d'analyser ces nouvelles tendances. Pascal Hébel, bonsoir.
Bonsoir.
Directrice du pôle consommation et entreprise au CREDOC, le centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. Philippe Moati, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes aussi professeur, hein, pas uniquement observateur, professeur d'économie à l'Université Paris Diderot, co-président de l'Observatoire Société et Consommation, l'OPSOCO, on dit ça comme ça.
D'accord.
Alors n'hésitez pas à interpeller nos deux spécialistes et à nous faire part de vos témoignages, surtout si vous êtes un adepte de ces sites de revente en ligne. Appelez-nous au 01 45 24 7000.
Claire Servagen, le téléphone sonne.
Et tout de suite, un premier appel, celui de Marie qui se trouve à la Roche-Bernard. C'est bien dans le Morbihan. Marie, bonsoir.
Oui, c'est ça, bonsoir.
Bienvenue à vous. Vous êtes sur l'antenne d'Inter, on vous écoute.
Oui, alors moi c'est un goût particulier pour les objets anciens, des objets qui ont une âme, qui ont déjà servi. Je n'aime pas du tout le... J'ai une maison ancienne avec des meubles anciens que je chine patiemment. Et j'ai toujours chiné avec ma mère, hein, qui allait dans les brocantes et les antiquaires. Bon, maintenant, les antiquaires sont un peu chers, les brocantes aussi. Donc, pour des raisons financières d'abord, et après, par goût, je suis allée sur Marketplace, sur Le Bon Coin, et là, je prends beaucoup de plaisir à me dire, tiens, là, je mettrais bien une petite table, alors je vais chercher... Je vais mettre plusieurs jours, plusieurs semaines à chercher ma table, voilà. Et puis, c'est aussi, en effet, une façon de peut-être recycler les choses. Moi, les choses, je ne les revends pas, je les donne. Hein. Et voilà. Donc, c'est une nouvelle façon de chiner.
Et c'est comme ça que vous meublez votre maison?
Exactement. J'ai des meubles Louis-Philippe. Là, j'ai des petits. Je me dis, tiens, là, il me faut un petit buffet. Je vais trouver un petit buffet qui me va exactement, mais que j'aurais mis peut-être 2 mois à trouver. Mais je suis pas pressée. Je suis pas pressée. Et,
Louis-Philippe, c'est pas du bas de gamme, hein, Marie.
Ah non, c'est pas du bas de gamme, non. Ah non, c'est pas du bas de gamme. Moi, justement, je suis désolée de voir tous ces. Cette invasion d'objets qui viennent de Chine, qui nous envahissent, qui valent rien, qui sont cassés au bout de 3 jours. Moi j'ai acheté des meubles pour 20 euros juste parce que les gens se mettaient en couple, c'était des familles recomposées, donc ils avaient une table en trop, Là j'ai acheté des jarres en terre cuite pour mettre dans mon jardin. Qui ont déjà servi à une dame qui mettait son blé pour les poules dedans. Ce sont des jarres splendides hein, et qui font très très bien dans mon jardin. Quoi. J'aurais payé ça 120 euros la jarre, j'étais payé 25 euros.
Vous savez joindre l'utile à l'agréable. Merci mille fois, merci mille fois Marie pour ce témoignage.
Mais j'adore, j'aime pas les choses. J'aime les choses qui ont déjà vécu.
Voilà, les choses qui ont une histoire. Mille fois merci Marie pour cette entrée en matière. Philippe Moati, elle a dit beaucoup de choses Marie. Hein.
Je crois qu'elle a tout dit en fait. Hein. C'est bien.
Elle a bouclé l'émission à elle toute seule. Non, quand même pas.
Mais elle a bien souligné la diversité des motivations. Et elle a bien pointé ce qu'on voit dans nos études. La première motivation, elle l'a dit elle-même, hein, même si c'est pas ça qui a pris le plus de temps dans son intervention,
c'était financière. Elle a commencé par ça.
C'est ouais. Ça, une motivation financière. Et effectivement, quand on interroge les gens qui achètent d'occasion et qu'on leur demande pourquoi, arrive en premier le motif financier. Mais on peut pas limiter ce genre d'acte à cette recherche de la bonne affaire. Il y a effectivement un tas d'autres choses qu'on pourrait résumer sous le titre général, la recherche de sens, quoi. Donc ici, on a bien senti avoir un objet qui a qui a une histoire, qui a du vécu, quoi, qui a du sens, qui n'est pas juste un objet. C'est quelque chose qui véhicule de l'immatériel, de l'imaginaire. Et puis il y a aussi un côté ludique, j'ai bien senti. Hein. On prend du temps, on chine, enfin voilà, on est acteur de sa consommation. Et puis ça renouvelle, comme diraient les gens du marketing, ça renouvelle l'expérience de consommation et ça introduit du jeu, une logique un peu de chasse au trésor qui rend l'expérience tout à fait sympathique. Et c'est cette combinaison de cet ensemble de facteurs qui fait que ce genre de pratique s'est fortement diffusé en un temps assez limité.
On a aussi entendu, Pascal Hébel, à travers ce que nous disait Marie, le rejet d'une certaine forme de consommation aussi. Je ne veux pas ce qui vient de Chine.
Oui, tout à fait. Donc ça, ce qu'on sent parmi nos consommateurs, c'est qu'il y a une partie quand même un peu plus âgée qui va rechercher des biens qui durent longtemps. Et les plus jeunes, ils se posent moins ces questions quand ils vont sur des champs dans lesquels ils s'investissent plus ou ils veulent de l'innovation. Et donc, cette question de la durabilité des biens, elle revient en fait. En effet, on voudrait de plus en plus des choses qui durent plus longtemps. Et le fait qu'en effet, on ait ce marché de l'occasion qui soit développé, fait que on va même, dans les générations un peu plus jeunes, acheter peut-être des choses qui ont plus de valeur pour les revendre. Donc après, il y a tout un mécanisme économique qui se met en place où on se dit, et ça a commencé par des objets comme le Hi-Fi, où on se dit, j'achète plus cher parce que je sais qu'il y a un second marché. Donc ça devient aussi finalement une recherche de... Là, c'était pas tout à fait ça. Moi, ce qui m'a marqué dans ce qu'elle disait, c'était peut-être cette idée de « je donne après ». Et il y a aussi, on le voit chez les gens les plus aisés, c'est que dans cette nouvelle façon de consommer, où on veut pas jeter, hein, il y a un peu ça aussi, eh bien, ceux qui ont plus d'argent, au lieu de le revendre, ils vont donner et vont participer aussi de cette façon-là à ces nouveaux modes de consommation.
Philippe Moati, une question sur le rôle d'Internet dans tout ça, parce qu'elle nous disait il y avait déjà des brocantes, des antiquaires, etc. Le fait que maintenant ça arrive à la maison sur l'ordinateur, ça change quand même pas mal de choses.
Ça change tout, et ça change d'ailleurs d'autres pratiques de consommation, notamment toutes les pratiques de consommation qui implique de mettre face à face une offre et une demande. C'est-à-dire que si on prend le marché de l'occasion avant Internet, on était limité à des relations de voisinage, l'annonce chez le boulanger, au mieux une annonce dans un journal de petites annonces, mais le matching, comme on dit en anglais, c'est-à-dire la rencontre entre celui qui vend et celui qui achète, surtout sur des objets un peu spécifiques, était compliquée. Donc il est clair que cette pratique qui a toujours existé, le marché de l'occasion ne date pas d'hier, a pris un envol considérable dès lors qu'on a vu apparaître des plateformes. Et quand je dis « des », je devrais presque dire « une », parce que précisément comme la capacité de mettre facilement en rapport l'offre et la demande, y compris sur des produits pointus, ça mène naturellement à la concentration. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer 50 plateformes. Très vite, on a vu que tout s'est concentré.
Vous pouvez dire le nom, hein, on va pas...
C'est le Bon Coin et dans une moindre mesure eBay, quoi. Donc il y a deux grands acteurs majeurs sur le marché de l'occasion et qui ont tiré leur épingle du jeu parce qu'effectivement, quand vous cherchez quelque chose de précis et que vous voulez l'acheter vite, ou quand vous avez quelque chose à vendre et que vous voulez le vendre vite, la masse de gens qui se rencontrent sur ces plateformes fait que la transaction se fait très rapidement. Et en plus, la masse de transactions qui s'y fait d'un indicateur du prix quelque part. C'est un mécanisme de marché et comme il n'y a pas de prix officiel pour un produit d'occasion, c'est l'offre et la demande qui le révèlent.
Pascal Hébel.
Je voulais juste ajouter que le succès du Bon Coin qui en effet a rattrapé eBay, c'est parce qu'il y a aussi ce lien social. C'est-à-dire que finalement, ce qui marche le mieux, c'est quand on échange en se voyant. Parce que le premier frein à ces échanges sur Internet, ça a été la confiance en fait. Hein. C'est que il y a eu beaucoup d'arnaques, on pouvait mettre en vente et comment on payait les choses. Donc eBay a trouvé une solution qui était essentiellement de trouver un acteur. Enfin d'ailleurs ils ont créé PayPal pour mettre un système d'échange d'argent. Mais le Bon Coin a eu la bonne idée de trouver des gens proches de chez soi pour recréer cet esprit de vide-grenier où finalement on peut se rencontrer et ça, évidemment, le lien social qui manque dans nos sociétés plus urbaines est un plus.
Est-ce qu'on peut dire peut-être à ce stade-là de l'émission, Philippe Moati, un mot de concernant le Bon Coin, du nombre de visiteurs, du nombre d'annonces, parce qu'il y a des chiffres qui donnent le vertige, qui circulent jusqu'à 1 million d'annonces ajoutées chaque jour en France, cet ordre-là?
Non, on est dépendant de ce que le Bon Coin
veut bien nous dire, c'est ça, oui.
J'avais entendu 30 millions d'inscrits, ce qui fait quasiment un Français sur deux, hein, donc c'est absolument colossal. Et c'est précisément parce qu'il y a cette masse que ça mène la masse. Vous voyez, on est sur des phénomènes cumulatifs qu'on retrouve sur toute l'économie des plateformes. C'est que quand on arrive à franchir un seuil critique, eh bien la dynamique s'emballe assez naturellement et on émerge comme acteur dominant sur le marché parce que c'est de plus en plus utile pour les consommateurs de pouvoir adhérer à un système qui nous met en rapport avec une telle masse de contreparties potentielles.
Sixième site le plus consulté après 5 sites américains. Vous avez aussi ce genre d'indication, Pascal Ebel ?
Oui, oui, tout à fait. C'est sûr que c'est dans les sites e-commerce, Le Bon Coin arrive en très haute position. Mais c'est vrai qu'il y a aussi de plus en plus de sites spécifiques. Et on voit même des sites qui font de la publicité. Donc des sites qui vont proposer d'être sur des vêtements de grande valeur.
Par exemple.
et finalement, on voit qu'il y a quand même un besoin de spécialistes. Parce que finalement, le bon marché, peut-être le bon coin est tellement énorme qu'il y a besoin, de pour certains, d'être dans une communauté plus restreinte avec des codes un peu différents.
On repart au Standard de France Inter. Alexandra nous appelle du Rhône. Bonsoir Alexandra.
Bonsoir.
Bienvenue à vous.
Merci. Alors moi, je travaille dans une ressourcerie dans les Monts du Lyonnais. On a deux magasins et on récupère... Allô ?
Oui, oui, on vous écoute.
On récupère
tout le monde,
tout ce
vous
que
écoute.
Les gens nous amènent, en fait. On est l'étape ultime avant la déchetterie et nous, on récupère les objets pour leur donner une seconde vie. Voilà. Ce qui fait que aussi bien les gens peuvent nous déposer que venir acheter. Et l'idée, c'est d'acheter des objets qui auront une nouvelle histoire. On a, pour rebondir sur ce que disait votre interlocutrice tout à l'heure, on a fait au mois de mai un travail avec une photographe pour raconter justement l'histoire des objets qui nous étaient confiés. Et on collectait les histoires auprès des propriétaires qui nous posaient les objets pour pouvoir après la transmettre aux gens qui vont acheter les objets. Et c'est vrai que tous les objets qui nous sont déposés ont une histoire et on fait pas toujours attention quand on les a comme ça, mais c'est vrai que c'est touchant de connaître l'histoire des objets. Et l'idée de cette ressourcerie, c'est aussi un support pour l'insertion professionnelle. Donc ça permet à des gens de rebondir professionnellement en ayant une activité qui leur donne de nouvelles compétences et de nouvelles possibilités d'avenir.
Alexandra, juste une question. Vous, oui. C'est dans des magasins que ça se passe. Vous ne passez
pas
par Internet.
Hein. Alors, on va travailler là avec la plateforme qui a mis en place Emmaüs, pour le label Emmaüs, pour pouvoir mettre en vente des objets très spécifiques, très vintage, très recherchés, dont on n'aurait pas obligatoirement le public sur notre territoire. Mais la majorité, effectivement, de nos ventes se font dans les deux magasins. On est ouvert plusieurs fois dans la semaine. Il y a des gens en fait qui viennent toutes les semaines voir ce qu'on propose parce que on est avec un arrivage permanent en fait.
Une petite question encore Alexandra. Outre le côté réinsertion de ceux qui travaillent, le côté valeur de l'objet, histoire de l'objet, est-ce que vous avez l'impression aussi de participer d'une certaine façon à une économie en évitant qu'on jette trop les choses et qu'on les récupère, qu'on les arrange.
Pour vous donner une petite idée, l'année dernière, on a récupéré 450 tonnes d'objets en un an. Quand on parle du nettoyage de printemps, c'est vraiment, ça existe vraiment. Hein, quand sur 3 jours, on arrive à récupérer 2 tonnes juste avec une ouverture de 3 heures par demi-journée, on a vraiment un impact économique et un impact écologique sur le territoire.
Et ça, pour vous, c'est important aussi.
C'est important aussi, ouais.
Merci Alexandra, merci mille
beaucoup,
fois pour ce témoignage et bonne continuation à la ressourcerie dans le Rhône. Pascal Ebel, vous souhaitiez peut-être réagir à ce que vous venez d'entendre.
Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'en effet, ça a créé finalement des acteurs qui vont faire de la réparation. Et ce qui est étonnant, c'est que dans les données de consommation qui sont sorties il y a 2 semaines sur quels sont les postes qui ont le plus augmenté en 2018 par rapport à 2017, le premier poste, c'est l'achat de vélo. Plus 15%.
Plutôt rassurant.
Et le deuxième poste, c'est la réparation, les dépenses faites pour réparer l'électroménager. Ce qui veut dire que ce qui se passe en ce moment, c'est que finalement, on a cet état d'esprit où on veut moins jeter, donner de la seconde vie et les cordonniers, pareil. Enfin, le marché de la réparation des chaussures est en forte croissance. C'est-à-dire que globalement, ça se voit sur les marchés, on va mettre de l'argent pour réparer et les ressourceries, mais aussi tous les ateliers de réparation, souvent avec de la réinsertion, vont diffuser en fait toutes ces nouvelles façons de consommer.
Philippe Moati, ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se oui. passer là.
Oui, clairement. On a coutume de dire, c'est un peu une boutade, hein, qu'on est en train d'amorcer la saison 2 de la société de consommation. Alors, c'est pas tant le fait d'activistes militants de la décroissance, c'est plutôt une sorte d'élan collectif, plus ou moins formalisé, plus ou moins engagé, mais qui dénonce les excès d'un système auquel on est par ailleurs attaché. C'est ça toute l'ambiguïté, c'est je t'aime moi non plus la consommation. Mais il y a des choses qui énervent de plus en plus. Alors, il y a évidemment tout ce qui est relatif à la santé, et ça touche essentiellement l'alimentaire. Et pour en rester sur les biens durables, l'obsolescence programmée, car il s'agit bien de ça, c'est-à-dire d'être obligé de remplacer régulièrement, de jeter sans réparer, etc., c'est devenu insupportable. 91% des Français que nous avons interrogés sont convaincus que les industriels font délibérément de sorte que les produits tombent en panne très vite après la fin de la durée de garantie.
Ce qui n'est peut-être pas complètement faux.
Ce qui est pas, je ne me prononcerai pas sur le fond, mais c'est probable qu'effectivement ce soit pas faux parce que c'est inscrit dans leur modèle économique en quelque sorte. Et ça, c'est insupportable doublement parce que c'est une perte de pouvoir d'achat. À un moment où on a l'impression que ce pouvoir d'achat devient rare, le gaspiller, c'est absolument insupportable. Et puis avec la prise de conscience des enjeux environnementaux, bah c'est encore plus insupportable, si vous voulez. Donc il y a effectivement une poussée de colère de la part de gens qui sont pas forcément dans le rejet systémique hein, de la consommation, mais qui voudraient que ce genre de choses cesse. Et effectivement, l'une des voies d'ailleurs dont le gouvernement se saisit à travers la feuille de route de l'économie circulaire, c'est de promouvoir la réparation. Mais encore faut-il que les produits soient réparables. Parce qu'aujourd'hui, ils sont souvent conçus de manière à ne pas être réparables ou à un coût tellement important qu'il est plus intéressant de remplacer plutôt que de réparer. Donc il y a un enjeu très important hein, pour continuer de consommer en bonne conscience, mais en réduisant un petit peu l'impact environnemental, puis en économisant son pouvoir d'achat. Là, on peut satisfaire à la fois le consommateur et le citoyen.
Voilà, des raisons financières, des raisons écologiques, mais aussi peut-être des raisons concernant le lien social. On l'entend ça à travers les témoignages qu'on vient d'avoir.
Oui, tout à fait. Dans la ressourcerie, quand on dit qu'on va porter ces objets dans la ressourcerie et qu'on vient chercher d'autres clients vont venir chercher les objets qui racontent une histoire, ça crée vraiment aussi autour de ces actes, on le sent dans les villes en fait, hein, des lieux de rencontre. Donc il y a des grands événements qui vont se faire, alors souvent sur l'alimentation, où on partage des produits qui devaient être jetés, où on fait des soupes populaires, mais aussi sur ça devient des sujets de discussion, de demander, bien j'ai ma machine qui tombe en panne, comment on la répare. Et donc finalement, même s'il y a des associations qui autour vont aider à ce que ça soit plus fluide, on sent que ça s'installe dans la société.
Ça veut dire quoi? C'est une forme de résistance aussi au système, Philippe Moitié?
C'est très difficile de parler au singulier quand on parle de consommation, parce que ce qui marque notre époque, c'est une grande diversité de comportements de consommation et d'attitudes à l'égard de la consommation. Et dans cette diversité, vous avez effectivement un pan non négligeable et certainement en croissance de la société qui commence à rentrer en résistance. Et là, avec un discours plus construit et des pratiques plus radicales. C'est plutôt cela qu'on va trouver dans les ressourceries, qui vont adhérer à des AMAP, donc ça s'approvisionnait directement auprès des producteurs. Alors c'est des taux de pénétration qui sont assez faibles, mais qui sont en forte progression. On voit également progresser ce qu'on appelle les SEL, les systèmes d'échange locaux. On va en fait s'échanger des heures de service, donc on est en dehors de l'économie marchande, ce qui permet notamment à des personnes qui n'ont pas les moyens de consommer dans l'économie marchande, malgré tout, de pouvoir satisfaire leurs besoins. Donc cette frange un peu radicale qui aspire à un autre système, alors là, ils ont l'alternative, hein. Ouvre la voie en quelque sorte, explore des pratiques un peu alternatives qui quelquefois, lorsque finalement on se rend compte qu'il y a un potentiel, sont récupérées par des acteurs plus traditionnels. On l'a vu par exemple avec le covoiturage, hein, c'est né dans le monde associatif et finalement c'est récupéré par un acteur qui domine la scène aujourd'hui et qui est animé par des préoccupations économiques assez conventionnelles. Mais à la limite, pourquoi pas? Ces grands acteurs permettent de passer à l'échelle et une pratique est au départ confidentielle, peut-être vertueuse, mais confidentielle, devient peut-être un peu moins vertueuse, mais s'étend à une échelle qui peut avoir un réel impact sur le cours des choses.
Pascal Hébel.
Je pense qu'il y a des acteurs aussi économiques, en effet, qui ont testé l'idée de réparer. Alors, je pense à un acteur de du petit électroménager qui, justement, a inversé les choses. Et quand, avant, un objet tombait en panne, l'économie faisait que, au lieu de le réparer, on fait marcher sa garantie et on vous en donne un autre neuf. Et en fait, ils ont réussi à tester l'idée que, au lieu de redonner un objet neuf, on le répare. Et ils se sont rendus compte que ça faisait changer complètement la fabrication des objets, puisqu'ils sont obligés d'en faire qui se réparent beaucoup mieux. Et évidemment, ils ont gagné de l'argent. C'est-à-dire qu'économiquement, même pour un acteur économique, cette façon de raisonner va dans le sens, évidemment, de meilleur impact sur la planète. Et en même temps, l'acteur peut y gagner de l'argent, parce qu'en fait, il va fabriquer autrement et en réparant, ça lui coûte beaucoup moins cher que de jeter et de donner des objets qui sont complètement neufs.
La preuve que les consommateurs ont un pouvoir. On va partir à Lorient maintenant, où nous attend Denis. Bonsoir Denis.
Oui, bonsoir. Nous avons décidé de faire nos emplettes chez Emmaüs. Donc on achète nos vêtements, nos meubles chez Emmaüs. Mon épouse a trouvé une paire de chaussures de marque et un vêtement de marque en tout pour 11 euros. On ne fait plus de shopping parce que c'est devenu hors de prix. L'appartement est composé de bric-à-brac, hein, c'est pas un appartement in et il n'est pas fashion du tout, hein, mais alors on s'en fiche. Et pour des meubles, on va aussi dans des associations caritatives parce que la vie est tellement devenue chère que maintenant nous sommes c'est une obligation pratiquement, nous sommes obligés d'aller auprès d'associations caritatives pour acheter, je dis bien acheter à moindre prix, quoi. Et la même chose pour Emmaüs, voilà.
Voilà, vous faites une, effectivement pour des raisons financières, Denis, mais est-ce que vous avez l'impression aussi peut-être de faire une bonne action quelque part, en allant vers Emmaüs, par exemple?
Tout à fait, parce qu'en fin de compte, nous achetons des vêtements qui ont servi, des meubles qui ont servi, d'autres, donc des choses qui ne seront pas mises à être détruites, qui ne seront pas cassées, enfin, et donc qui servent encore, et je trouve que c'est très bien, c'est comme ça qu'on évite de faire marcher l'industrie, à fond la caisse, parce que il faut penser au bouleversement climatique, et nous sommes assez écologistes aussi, je dois vous le dire. Donc voilà pourquoi nous allons aussi chez Emmaüs, mais je dois vous le dire, c'est aussi pour des questions financières, parce que sinon nous ne pourrions pas vivre.
Merci, voilà. Merci beaucoup Denis pour ce témoignage, Philippe Moati.
Oui, ce témoignage est intéressant parce que quand on regarde de près le profil des gens qui pratiquent ce type de consommation, alors pas seulement l'achat d'occasion, il peut y avoir le covoiturage, les AMAP dont on a parlé, enfin toutes ces pratiques un peu nouvelles et hors sentier battu, quoi. Quand on regarde de près leur profil, en réalité, elles sont plus diffusées auprès des CSP+, et des niveaux de revenus relativement élevés. Il y a une relation quasiment croissante aux revenus. Et évidemment, c'est aussi lié à l'âge, c'est plutôt les jeunes, parce que c'est souvent numérique, hein. Donc il faut se départir de l'idée que ce serait une sorte de consommation des pauvres. Alors pour certains, encore une fois, on est dans le domaine de l'hétérogénéité, hein. Pour certains, on y va contraint, on est forcé parce qu'on n'a pas trop le choix. On a beaucoup parlé des gilets jaunes qui étaient des gros clients du Bon Coin, hein. Donc quelquefois on y va contraint et forcé, mais globalement c'est plutôt les personnes à l'aise qui sont des adeptes de ce type de consommation parce qu'ils y trouvent la bonne affaire. C'est pas parce qu'on est à l'aise qu'on gaspille son pouvoir d'achat, qu'on n'est pas attentif à bien dépenser son argent, et parce que on est à la recherche de ce supplément d'âme, et notamment quand on regarde la sensibilité politique, hein, des gens qui s'adonnent à ce genre de pratiques de consommation, on a évidemment une surreprésentation des personnes qui ont une sensibilité écologique.
Pascal est belle.
Oui, ce qu'on observe, c'est que ça a évolué. En effet, aujourd'hui, c'est plutôt, nous, on trouve que c'est plutôt les diplômés. C'est-à-dire que c'est ceux qui ont une réflexion, et notamment plutôt les bac plus 3, les professions intermédiaires, qui vont faire ces gestes pour la planète. Mais en 2011, c'était les plus modestes. C'est-à-dire qu'au moment de la crise économique, où ces pratiques se sont beaucoup développées, les gens le faisaient vraiment parce qu'ils étaient dans une situation où ils avaient beaucoup moins d'argent. Et ce qu'on observe, c'est que cette évolution fait qu'en effet, quand c'est un peu plus pris par tous ceux qui sont diplômés, il y a aussi, nous, ce qu'on appelle un petit peu un effet de distinction, c'est-à-dire qu'on le fait aussi pour se démarquer des autres. Et on va évidemment avoir des pratiques en même temps qui peuvent coûter plus cher, comme acheter du bio. Et on observe la même chose sur le végétarisme, c'est-à-dire qu'il y a 10 ans, les gens qui étaient végétariens, c'était ceux qui n'avaient pas les moyens de se payer de la viande. Et aujourd'hui, alors là, c'est beaucoup les très très jeunes, hein, qui le font pour des raisons éthiques, hein, ils ont une cause à défendre qui est aujourd'hui le bien-être animal. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, ce sujet de faire ces nouvelles pratiques pour préserver la planète, c'est passer du côté des gens qu'on n'avait pas forcément le plus besoin. Et peut-être que ça, évidemment, va faire plus masse et aura un impact plus fort.
Je voudrais vous livrer ce que nous dit la réflexion de Blandine sur l'application France Inter. J'essaie au maximum de consommer en seconde main, livres, vêtements, meubles, notamment pour des raisons écologiques. Je me demande tout de même, suis-je la poubelle de celles et ceux qui surconsomment toujours, Philippe Moati?
Oui, encore une fois, on est dans le domaine de la diversité. Vous avez des gens qui sont débarrassés pour pouvoir acheter du neuf. Vous avez aussi des gens qui sont dans une forme d'économie circulaire dans leur consommation. Ils vendent d'occasion, ils rachètent d'occasion et ils font tourner. C'est aussi une manière de satisfaire son appétit pour le changement, qui est quand même une des valeurs de l'hyperconsommation, tout en ayant une relative bonne conscience. Je ne pense pas qu'il faille le vivre comme ça. Je vous donne un autre chiffre qui est frappant. 40% des Français disent avoir, au cours des 12 derniers mois, donc sur une période d'un an, avoir déjà ramassé des objets laissés dans la rue, notamment le soir des encombrants. Oui, 40%, alors évidemment quand on regarde leur profil, les personnes à faible revenu sont évidemment un peu plus représentées, mais quand on est à 40%, évidemment ça touche tout le monde, tout le monde. Je suis sûr que certains de vos auditeurs se reconnaissent dedans. Et donc c'est pas être la poubelle de ceux qui ont jeté, au contraire, c'est quelque part se dire je récupère un objet qui a vécu, je lui donne une seconde vie, souvent on va le customiser d'ailleurs, on va le personnaliser et on aura la fierté d'avoir un objet unique qu'on aura sauvé de la décharge. Et d'ailleurs c'est très amusant, une collègue sociologue qui a beaucoup travaillé sur cette question-là et qui a montré que les gens qui laissent sur les trottoirs, mettre un temps en scène pour que ça soit repris, quoi. Et éventuellement en mettant un petit papier, ça marche, reprenez-le, etc. Donc il y a une sorte de don contre don, mais sans se voir. Voyez, donc c'est quand même des gestes qui sont lourds de sens sur un plan anthropologique.
Voilà, et puis ceux qui ont peur d'être la poubelle des autres, puis il y en a qui sont très contents. Là, Chantal par mail qui nous dit ça fait des années que chaque dimanche je vais au vide-grenier, j'ai la chance d'habiter dans le sud, il y en a plein des vide-greniers. Je n'ai rien acheté de neuf depuis très longtemps, je suis plus heureuse quand je reviens avec une robe à 1 euro. Parce qu'elle est belle.
Oui, tout à fait, il y a cette idée de faire une affaire. Hein. Avant, c'était au travers des soldes là, qui ont démarré il y a deux jours. Et on allait, on se battait pour se trouver des produits moins chers et parce qu'il y avait un rabais. Et aujourd'hui, il y a cette idée, mais eBay au départ, où il y avait même des enchères inversées, ça devenait ludique de faire une affaire, quoi, et donc de pouvoir montrer qu'on a mieux réussi que celui d'à côté en le faisant plus vite. Ce qui est intéressant sur cette question d'occasion, c'est qu'on a vu ça au moment de Noël, c'était il y a une dizaine d'années, où on observait que finalement il y avait une partie de la population qui acceptait d'offrir même à Noël des produits d'occasion. Et donc là on a vu qu'il y avait un changement de mentalité énorme, parce qu'on acceptait, pour avoir justement par exemple des jeux pour les enfants qui soient des objets de valeur, d'aller sur de l'objet de l'occasion. Et donc c'est là qu'on a vu ce basculement qui s'est fait d'une majorité de la population. Après, c'est devenu moins critiqué par d'autres.
C'est devenu acceptable. Ouais. Richard est dans l'Aude et il est au bout du fil du standard de France Inter. Bonsoir Richard.
Oui, bonsoir. Bonsoir, merci pour votre émission. Donc je vous appelle, je suis en pleine montagne dans le sud de l'Aude, un petit village qui s'appelle Puy-Vert, 450 habitants. Et il y a quelques années, un couple de jeunes est arrivé dans ce village et ils ont ouvert leur garage pour en faire un magasin gratuit. C'est-à-dire que l'idée, c'est que toutes les personnes qui veulent viennent déposer des affaires qui soient en bon état, qui soient accessibles facilement et en peuvent prendre tout ce qu'on veut. On peut prendre dans ce magasin tout ce qu'on veut, on peut donner tout ce qu'on veut. Voilà, il y a trois dames qui sont bénévoles et qui organisent, qui trient les objets qui sont donnés. Donc ça va dans tous les domaines, vêtements, jouets, bricolage, linge en tout genre, c'est trié par âge, comme dans un magasin. C'est ouvert 365 jours par an, du matin dès qu'il fait jour jusqu'au soir dès qu'il fait nuit.
Voilà. À vous entendre, Richard, c'est une super initiative, hein.
Ouais, c'est très chouette et ça fait tache d'huile un petit peu dans notre région là. Donc c'est une initiative qui est assez alternative au départ. Hein. C'est il y a une philosophie, il y a une éthique, halte à la consommation effrénée. Et puis on ouvre en même temps que on ferme les porte-monnaies, on ouvre les cœurs quelque part. Voilà, donc ça fait des émules parce que maintenant il y a des gratiférias qui s'organisent dans la région, c'est-à-dire un genre de vide-grenier si vous voulez, mais entièrement gratuit, où les gens viennent déposer et prendre ce qu'ils veulent, sans aucun contrôle.
Merci beaucoup Richard pour ce très beau témoignage, Philippe Moati.
Oui, ça souligne d'ailleurs un des paradoxes de l'essor de ces modes de consommation, qui effectivement témoignent de... résistance, c'est trop fort, hein, on l'a dit tout à l'heure.
Mais quelque chose.
D'une prise de distance, ouais, par rapport au modèle de consommation, d'ailleurs qui inquiète beaucoup, hein, les grands acteurs de la consommation, que ce soit les industriels ou les enseignes. Hein. Et on sent bien, on a envie le rapport marchand serait allé trop loin, quoi. On a envie de rapports humains qui soient pas fondés uniquement sur le rapport marchand. Ça a été dit. Mais en même temps, si on regarde finalement en quoi consiste l'essentiel de ces pratiques les plus diffusées. L'occasion, le covoiturage, l'hébergement de particuliers, je pense à Airbnb, etc. On est sur une marchandisation des rapports interpersonnels. L'autostop, c'était gratuit. Le covoiturage, ce n'est pas gratuit. Donc, de manière un peu cynique, et à mesure d'ailleurs que ces pratiques ont été récupérées par des acteurs plus conventionnels, eh bien, c'est un nouveau territoire de la marchandisation qui a été conquis. Et de manière particulièrement cynique, dans des rapports interpersonnels, pas d'institutions économiques à particulier, entre personnes. Et donc, vous voyez, toute ambiguïté du mouvement en cours, quoi. On est vraiment dans « je t'aime, moi non plus », tiraillé entre des logiques contradictoires.
Pascal.
Alors, ce qu'on observe, c'est que le troc, en effet, se développe. On était à 10% en 2016-2017, et là, en 2018, on est à 17% de gens qui ont déjà posé des objets ou échangé gratuitement. Et je pense que c'est l'offre qui fait ça, en effet. On voit partout, alors dans tous les villages, le fait de déposer un livre.
Quasi
et
un
puis
livre,
vous le prenez, quoi, en fait. Donc, et ça, ça s'est fait tout de suite sur des bancs, etc. Donc, je trouve qu'en effet, c'est vraiment un échange qui est beaucoup plus solidaire, où il y a beaucoup plus du don. Et on sent que c'est pas que, on cherche pas tout le temps. Et donc, il y a du gratuit. Donc, c'est vraiment un monde qui s'ouvre avec des modèles qui vont de différentes sortes qui sont, donc, on sent qu'on pourra innover, continuer à innover sur les formes d'échange.
Anne, bonsoir. Vous êtes en Gironde.
Oui.
Vous êtes sur l'antenne d'Inter. Bonsoir Anne, on vous
bonsoir.
Écoute.
Bonsoir. D'abord, je suis 100% d'accord avec ce qui vient d'être dit. Sur les échanges solidaires, nous, on participe à MAP, Hyper Café, il y a des ressourceries dans le secteur, il y a des échanges qui sont source de liens et c'est formidable. Je voulais aborder en fait un sujet en disant qu'il fallait peut-être réfléchir aussi globalement à ce que génère ces types d'échanges, donc c'est ce qui vient d'être dit, et je pensais notamment aux plateformes type Vinted, où on va échanger, enfin revendre des habits, des occasions, et qui en fait génèrent énormément de trafic, c'est monstrueux, c'est des villages bloqués par des livraisons dans les points relais, c'est plein de camions sur les routes, pour des t-shirts à 2 ou 5 euros. Voilà, donc je voulais dire qu'il fallait, c'est comme dans le bio, il y a le vrai, puis il y a le bio de supermarché, il faut avoir aussi une réflexion sur nos consommations solidaires ou à but écologique et pas faire n'importe quoi.
Voilà, il faut voir le revers de la médaille. Merci beaucoup,
oui,
Anne.
Oui, qui n'existe pas dans tout ce qui est local, comme les ressourceries, ces choses, ce type d'échanges.
Merci beaucoup, Anne, pour cette interrogation, cette interpellation, je dirais même, Philippe Moati.
Oui, parce qu'on parle de pratiques de consommation qui semblent vertueuses, en tout cas un peu en rupture avec l'économie marchande ordinaire. Mais regardons parallèlement d'autres formes de consommation en plein développement qui témoignent d'un attachement au cœur du réacteur, là, dans l'hyperconsommation violente. Je pense notamment à tous les déstockeurs, les enseignes qui sont spécialisées dans le déstockage, qui vendent des produits, alors qu'ils viennent, on ne sait pas très bien d'où, souvent bas de gamme, à des prix cassés. Ils enregistrent des croissances à 2 chiffres actuellement. Je pense à un site internet de vente en ligne qui s'appelle Wish, qui permet d'acheter des directement de Chine, hein, des objets de qualité extrêmement médiocre qui sont expédiés un à un de Chine. Quoi. Donc vous voyez que à côté de ces pratiques vertueuses, on a aussi l'éclosion et le développement de pratiques de consommation qui témoignent de la poursuite d'une course effrénée à une consommation quantitative avec un impact environnemental catastrophique. Donc la dynamique n'est pas aussi rose, hein, que ce qu'on est en train de vouloir dire.
Mais elle avait raison, Anne, de poser la question des livraisons,
bien
parce
entendu.
Que c'est un secteur qui est en plein boom, là, qui explose.
Et toujours plus rapide, et toujours plus de choses. Les repas, l'alimentaire en une heure, etc. Quoi.
Voilà, il faut se faire livrer à peu près pour tout, hein, parce qu'elle est belle.
Oui, donc en fait, ce qui est important, c'est quand même de calculer en effet le coût carbone de toutes ces opérations. Et c'est vrai que c'est pas toujours comme on le croit. Par exemple, quand on a parlé des locations, en fait, de loger des gens en plus, on a fait le calcul, ça permet pas d'économiser notamment de l'énergie, parce qu'en fait, il faut chauffer plus, etc. Donc c'est pas toujours dans le sens auquel on s'attend. Et finalement, il y a aussi ce qu'on appelle des effets rebonds, c'est-à-dire qu'on peut choisir de consommer comme ça et donc en effet, d'ailleurs on va acheter plus d'habits, etc. parce que c'est plus facile, c'est moins cher. Mais surtout, il y a cette question, et c'est pas facile à mesurer, de se dire j'économise de l'argent en achetant moins cher. Et qu'est-ce que je fais de l'argent qui reste ? Et comme les gens voyagent de plus en plus, et donc par exemple, nous on s'est rendu compte que ceux qui prenaient l'avion, plus on prenait l'avion, plus on achetait de l'occasion. Donc on a l'impression que des fois on se dédouane avec ces gestes qui ne pèsent pas forcément tant que ça sur la planète.
Alors je voudrais vous soumettre maintenant une question de Marie que je vais pas pouvoir prendre en ligne parce qu'il est déjà 19h56. Elle pose la question de la location plutôt que de l'achat. Est-ce que c'est pas un signe aussi que il vaudrait mieux parler de l'usage des objets plutôt que de leur possession, Philippe Moati?
Oui, on en parle beaucoup. D'ailleurs, c'est une des rares voies qu'on envisage pour arriver à concilier consommation et développement durable. Ceci dit, dans nos enquêtes, la location plafonne. On est à peu près à 20% des gens qui disent, quel que soit hors automobile, hein, qui disent avoir loué un objet, quel qu'il soit, au cours des 12 derniers mois. Et depuis qu'on mesure, c'est-à-dire depuis à peu près 8 ans, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Le modèle économique est pas simple, en fait. C'est pas simple du tout. Alors, des grands acteurs commencent à s'y intéresser. Ça va peut-être décoller. On a appris que Ikea, par exemple, exemple, à envisager très prochainement hein, de mettre des produits en location. D'ailleurs, il faudra qu'ils les conçoivent autrement, parce que tels qu'ils sont conçus aujourd'hui, on imagine mal qu'ils puissent faire plusieurs rotations, quoi. Donc c'est sans doute une pratique qui est appelée à se développer, mais du côté de l'offre, il nous manque le business model qu'il faut trouver, et que des grands acteurs se mouillent là-dedans, parce que pour l'instant, c'est surtout des petits acteurs qui s'y sont frottés, et ils n'ont pas les reins suffisants pour développer le marché, quoi.
Une question sur franceinter.fr de Maryse. Il semble y avoir une arnaque au paiement sur Le Bon Coin. Est-ce qu'il y a des escrocs qui nous dirigent vers de faux sites? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous avez entendu parler de ça l'un ou l'autre?
Je sais qu'il y a eu des arnaques sur d'autres sites comme Airbnb où des gens faisaient semblant, vous piquaient votre offre et l'offraient à votre place. Et donc il y a des gens qui se retrouvaient à avoir loué le même bien. Mais oui, c'est possible qu'il y ait des arnaques de ce type. Mais
ce qui est d'ailleurs frappant, c'est que alors que dans les enquêtes, les consommateurs se disent être très défiants à l'égard des grands acteurs, marques, enseignes, etc. Finalement, ils accordent une confiance presque aveugle pour des échanges avec des particuliers. Alors que là, le cadre juridique qui les protège est quasiment vide. Hein. Donc, il y a un vrai paradoxe qui témoigne quand même de tendances sociétales intéressantes.
Alors, cette émission est pratiquement terminée. Je voudrais que vous nous disiez chacun en 15 secondes comment vous voyez l'évolution des choses et ce qui va être marquant peut-être dans les mois ou les années qui viennent. Pascal Hébel, c'est vous qui commencez.
Ah, moi, je crois qu'on va avoir de plus en plus de réparations et finalement des durées de vie d'objets qui vont être de plus en plus longs et que c'est, on n'y croyait pas au moment de la reprise économique, mais c'est certain que les gens iront de plus en plus vers des objets qui auront une durée de vie plus longue.
Et vous, Philippe Moiti?
Les grands acteurs de la consommation, marques et enseignes, constatent chaque jour davantage que leur modèle s'épuise. Donc à leur tour, ils sont en train de constater qu'il va falloir changer de business model. Et je crois qu'ils sont restés spectateurs de tout ce qu'on a évoqué pour la plupart. Ils vont devenir acteurs. Et ce faisant, ils vont à la fois dévoyer la logique initiale de tout ça, mais vont permettre un passage à l'échelle. Donc je pense vraiment qu'on est en train d'assister à la naissance d'un nouveau modèle de consommation.
Merci mille fois, Pascal Hébel, Philippe Moiti, d'être venu ce soir à France Inter. Merci à tous ceux qui nous ont appelés, à ceux qui nous ont écrit à la technique Arnaud Caillé, Ludovic Asselot, Alexandre Chenet. Je vous dis à lundi pour un téléphone sonne qui sera consacré au grand âge.